Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier hyper complet sur la pratique du kayak sur la rivière de la Semois en Belgique.
Ouais, un sujet vraiment passionnant.
Et en fait, l'idée, c'est d'aller bien au-delà de la petite brochure touristique. Parce que franchement, planifier une descente là-bas, c'est presque une expédition scientifique. En tant que passionné, je suis ravi de décortiquer ça aujourd'hui.
C'est clair, entre l'hydrologie, la météo et les lois environnementales, on est très loin de la simple balade où on prend juste sa pagaille et de la crème solaire, quoi.
Ah, ça c'est sûr!
Il faut rappeler que la vallée est un parc national depuis 2022. Elle fait partie du réseau européen Natura 2000. Du coup, naviguer, c'est pas un droit absolu. C'est un privilège qui est très strictement réglementé pour protéger la biodiversité.
Et justement, la première chose qui m'a marqué dans les sources, c'est l'impact du débit de l'eau. J'ai pensé à un tapis roulant d'aéroport.
Ah, c'est une super analogie, ça.
Bah, si le débit est sous les 4 mètres cubes par seconde, le tapis est en panne. On rame péniblement à 3,5 km par heure. Un trajet classique de 21 km devient une galère de 6 heures.
Ce qui est épuisant pour n'importe qui.
Grave. Mais avec un débit idéal, genre entre 10 et 30 mètres cubes, là le tapis s'allume, la rivière nous porte tranquille à 6 km par heure.
Exactement. Et le document insiste longuement sur ce qui se passe quand le tapis s'arrête. Il y a cette fameuse phase rouge.
La phase rouge, ouais.
Voilà. Elle est déclenchée dès que le débit chute sous 2,2 mètres cubes par seconde à la station de mesure de Membre. Et à ce stade, l'interdiction de naviguer est totale et immédiate.
Mais attends, une interdiction totale juste parce qu'il manque quelques centimètres d'eau. Ça paraît hyper extrême. Les visiteurs doivent être furieux, non ?
On pourrait croire que c'est pour embêter les touristes, mais pas du tout. C'est vital. Si l'eau est trop basse, les coques en plastique des kayaks raclent le lit de la rivière.
Ah ouais, ça abîme les rochers.
Pire que ça, le frottement détruit la faune benthique.
Benthique, c'est-à-dire ?
Bah, ce sont tous les micro-organismes, les insectes et surtout les frayères à truites. Les poissons pondent leurs œufs directement sur ces galets.
Oh waouh, je vois.
Oui, un kayak qui frotte le fond, ça se transforme littéralement en broyeur d'œufs.
Ah oui, d'accord. Vu comme ça, l'interdiction prend tout son sens. L'eau, c'est un sanctuaire, en fait. Mais en lisant la suite, on voit qu'il n'y a pas que l'eau qui complique les choses.
Non, la topographie joue un rôle redoutable. La vallée forme un V géologique très encaissé. La nuit, on a de fortes inversions thermiques.
L'air froid qui est plus lourd coule et reste bloqué au fond, c'est ça, hein ?
C'est ça. Et le matin, avec l'évaporation, ça donne des brouillards à couper au couteau. Apparemment, la visibilité peut être nulle jusqu'à 11h du matin.
C'est fou, c'est du kayak à l'aveugle. Et puis, il y a le vent. Les sources parlent des méandres, comme celui de Fraran.
Ah, le fameux piège aérodynamique.
On a un vent favorable dans le dos, tout va bien, et paf, après un simple virage à 180 degrés, on se prend un mur de face épuisant.
C'est le grand classique. Et en parlant d'obstacles, les sources mentionnent un truc incroyable, le pont de Claisse à Vraie-sur-Semois.
Fait uniquement en branches de noisetier tressées, j'ai adoré ce détail.
C'est fascinant. Mais le truc fou, c'est qu'il est tellement bas sur l'eau que les kayakistes doivent s'allonger en arrière pour passer dessous.
Ou même descendre du bateau et le porter. Mais pourquoi construire un pont aussi bas et, franchement, peu pratique pour la navigation ?
Bah, c'est un pont éphémère. Les habitants le construisent l'été, quand l'eau est au plus bas, juste pour traverser à pied sec.
Ah, et ils le démontent ensuite ?
Exactement, à l'automne, avant les grandes crues hivernales. Donc sa faible hauteur, c'est juste un compromis structurel pour résister au courant l'été.
Ça rajoute un folklore très physique à la descente, quoi.
D'ailleurs, avec toutes ces contraintes estivales, le rapport dit que la saison reine, c'est plutôt le printemps ou l'automne.
C'est là que le bon débit est garanti. Par contre, attention, l'eau y est glaciale. Elle avoisine souvent les 10 degrés. D'où le port obligatoire de chaussures fermées, j'imagine.
C'est indispensable. Déjà pour pas se trancher les pieds sur les roches de schiste, mais surtout pour éviter un choc thermique paralysant si on tombe dans l'eau.
Ce qui nous amène au dernier phénomène mentionné, l'évapotranspiration. Les documents expliquent que la dense forêt ardennaise agit comme une énorme éponge.
Ouais, c'est le processus où les arbres pompent l'eau du sol et la rejettent en vapeur. En été, cette forêt a tellement soif qu'elle absorbe une immense partie des pluies avant même qu'elle touche la rivière.
C'est dingue. Donc, entre cette évapotranspiration massive et l'accélération des sécheresses, garder un niveau d'eau l'été tient du miracle.
Ce qui soulève une réflexion vraiment vertigineuse pour l'avenir. Si ces rivières deviennent structurellement innavigables en pleine saison, comment les économies locales vont survivre ?
C'est la grande question. Est-ce que des villages entiers vont devoir imaginer une reconversion totale vers un tourisme complètement déconnecté de l'eau d'ici quelques décennies ? Ça laisse vraiment à réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain Deep Dive.